Chapitre 3. Les rires d'Hortense étaient en ce moment causés par un triomphe remporté sur l'obstination de la cousine Bette. Elle venait de lui surprendre un aveu demandé depuis 3 ans. Quelque dissimulée que soit une vieille fille, il est un sentiment qui lui fera toujours rompre le jeûne de la parole. C'est la vanité. Depuis 3 ans, Hortense, devenue excessivement curieuse en certaines matières, assaillait sa cousine de questions, ou respirait d'ailleurs une innocence parfaite. Elle voulait savoir pourquoi sa cousine ne s'était pas mariée. Hortense, qui connaissait l'histoire des 5 prétendus refusés, avait bâti son petit roman. Elle croyait à la cousine Bette une passion au cœur, et il en résultait une guerre de plaisanteries. Hortense disait « Nous autres, jeunes filles !» en parlant d'elle et de sa cousine. La cousine Bette avait, à plusieurs reprises, répondu d'un ton plaisant « Qui vous dit que je n'ai pas un amoureux ?» L'amoureux de la cousine Bette, faux ou vrai, devint alors un sujet de douce raillerie. Enfin, après 2 ans de cette petite guerre, la dernière fois que la cousine Bette était venue, le premier mot d'Hortense avait été « Comment va ton amoureux ?»« Mais bien, » avait-elle répondu, « il souffre un peu, ce pauvre jeune homme. »« Ah, il est délicat ?» avait demandé la baronne en riant. « Je crois bien, il est blond. Une fille charbonnée comme je le suis ne peut aimer qu'un blondin, couleur de la lune. » « Mais qu'est-il? Que fait-il ? » dit Hortense. « Est-ce un prince ?»«
Prince de l'outil, comme je suis reine de la bobine. » »«
Une pauvre fille comme moi peut-elle être aimée d'un propriétaire ayant pignon sur la rue et des rentes sur l'état, ou d'un duc et pair, ou de quelque prince charmant de tes contes de fées ?»«
Oh, je voudrais bien le voir !»
s'était écriée Hortense en souriant.
« Pour savoir comment est tourné celui qui peut aimer une vieille chèvre ?» avait répondu la cousine Bette.
« Ce doit être un monstre de vieil employé à barbe de bouc !» avait dit Hortense en regardant sa mère.
« Eh bien, c'est ce qui vous trompe, mademoiselle !»«
Mais tu as donc un amoureux !» avait demandé Hortense d'un air de triomphe.
« Aussi vrai que tu n'en as pas !» avait répondu la cousine d'un air piqué.
« Eh bien, si tu as un amoureux, Bette, pourquoi ne l'épouses-tu pas ?»
avait dit la baronne en faisant un signe à sa fille. « Voilà 3 ans qu'il est question de lui, tu as eu le temps de l'étudier, et s'il t'est resté fidèle, tu ne devrais pas prolonger une situation fatigante pour lui. C'est d'ailleurs une affaire de conscience, et puis, s'il est jeune, il est temps de prendre un bâton de vieillesse. » La cousine Bette avait regardé fixement la baronne, et voyant qu'elle riait, elle avait répondu « Ce serait marier la faim et la soif. Il est ouvrier, je suis ouvrière. Si nous avions des enfants, ils seraient des ouvriers. Non, non, nous nous aimons d'âme, c'est moins cher. »«
Pourquoi le caches-tu ? » avait demandé Hortense.
« Il est en veste, » avait répliqué la vieille fille en riant.
« L'aimes-tu ? » avait demandé la baronne.
« Ah, je crois bien. » Je l'aime pour lui-même, ce chérubin. Voilà 4 ans que je le porte dans mon cœur.
Eh bien, si tu l'aimes pour lui-même, avait dit gravement la baronne, et s'il existe, tu serais bien criminelle envers lui. Tu ne sais pas ce que c'est que d'aimer.
Nous savons toutes ce métier-là en naissant, dit la cousine.
Non, il y a des femmes qui aiment et qui restent égoïstes, et c'est ton cas.
La cousine avait baissé la tête, et son regard eût fait frémir celui qui l'aurait reçu. Mais elle avait regardé sa bobine.
En nous présentant ton amoureux prétendu, Hector pourrait le placer et le mettre dans une situation à faire fortune.
Ça ne se peut pas, avait dit la cousine Bette.
Et pourquoi?
C'est une manière de polonais un réfugié.
Un conspirateur? S'était écriée Hortense. « Es-tu heureuse? A-t-il eu des aventures ?»«
Mais il s'est battu pour la Pologne. Il était professeur dans le gymnase dont les élèves ont commencé la révolte. Et comme il était placé là par le grand-duc Constantin, il n'a pas de grâce à espérer. »«
Professeur de quoi ?
de Beaux-Arts. Et il est arrivé à Paris après la déroute. En 1833, il avait fait l'Allemagne à pied. Pauvre jeune homme! Et il a...
Il avait à peine 24 ans lors de l'insurrection. Il a 29 ans aujourd'hui.
15 ans de moins que toi, avait dit alors la baronne.
De quoi vit-il? Avait demandé Hortense.
De son talent.
Ah, il donne des leçons?
Non, avait dit la cousine bête. Il en reçoit, et de dur.
Et son petit nom, est-il joli?
Venceslas.
Quelle imagination, les vieilles filles! S'était écriée la baronne. À la manière dont tu parles, on te croirait, Lisbeth.
Ne vois-tu pas, maman, que c'est un Polonais tellement fait au knout que Bette lui rappelle cette petite douceur de sa patrie?
Toutes trois, elles s'étaient mises à rire, et Hortense avait chanté « Venceslas, idole de mon âme » au lieu de « Ô Mathilde ». Et il y avait eu comme un armistice pendant quelques instants.
« Ces petites filles, avait dit la cousine bête en regardant Hortense quand elle était revenue près d'elle, ça croit qu'on ne peut aimer qu'elles. »
« Tiens, avait répondu Hortense en se trouvant seule avec sa cousine, prouve-moi que Venceslas n'est pas un comte, et je te donne mon châle de cachemire jaune. »
« Mais il est comte. Tous les Polonais sont comtes.
Mais il n'est pas Polonais, il est de Liva... Lituanie?
Non.
Livonie?
C'est cela.
Mais comment se nomme-t-il?
Voyons, je veux savoir si tu es capable de garder un secret.
Oh, cousine, je serai muette.
Comme un poisson?
Comme un poisson.
Par ta vie éternelle?
Par ma vie éternelle.
Non, par ton bonheur sur cette terre?
Oui.
Eh bien, il se nomme le comte Venceslas Steinbock.
Il y avait un des généraux de Charles XII qui portait ce nom-là. C'était son grand-oncle. Son père à lui s'est établi en Livonie après la mort du roi de Suède, mais il a perdu sa fortune lors de la campagne de 1812, et il est mort, laissant le pauvre enfant, à l'âge de 8 ans, sans ressources. Le grand-duc Constantin, à cause du nom de Steinbock, l'a pris sous sa protection et l'a mis dans une école.
« Je ne me dédie pas, » avait répondu Hortense. « Donne-moi une preuve de son existence, et tu as mon châle jaune. Ah, cette couleur est le phare des brunes.
Tu me garderas le secret?
Tu auras les miens.
Eh bien, la prochaine fois que je viendrai, j'aurai la preuve.
Mais la preuve, c'est l'amoureux, » avait dit Hortense.
La cousine bête, en proie depuis son arrivée à Paris à l'admiration des cachemires, avait été fascinée par l'idée de posséder ce cachemire jaune donné par le baron à sa femme en 1808 et qui, selon l'usage de quelques familles, avait passé de la mère à la fille en 1830. Depuis 10 ans, le châle s'était bien usé, mais ce précieux tissu, toujours serré dans une boîte en bois de santal, semblait, comme le mobilier de la baronne, toujours neuf à la vieille fille. Donc elle avait apporté dans son réticule un cadeau qu'elle comptait faire à la baronne pour le jour de sa naissance et qui, selon elle, devait prouver l'existence du fantastique amoureux. Ce cadeau consistait en un cachet d'argent composé de 3 figurines adossées, enveloppées de feuillage et soutenant le globe. Ces 3 personnages représentaient la foi, l'espérance et la charité. Les pieds reposaient sur des monstres qui s'entre-déchiraient et parmi lesquels s'agitait le serpent symbolique. En 1846, après le pas immense que Mademoiselle de Fauveau, les Wagner, les Janet, les Froment-Meurice et des sculpteurs en bois comme Liénard ont fait faire à l'art de Benvenuto Cellini, ce chef-d'œuvre ne surprendrait personne. Mais en ce moment, une jeune fille experte en bijouterie dut rester ébahie en maniant ce cachet quand la cousine bête le lui eut présenté, en disant « Tiens, comment trouves-tu cela ?» Les figures, par leurs dessins, par leurs draperies et par leurs mouvements, appartenaient à l'école de Raphaël. Par l'exécution, elles rappelaient l'école des bronziers florentins que créèrent les Donatello, Brunelleschi, Ghiberti, Benvenuto Cellini, Jean de Bologne, etc. La Renaissance, en France, n'avait pas tordu de monstres plus capricieux que ceux qui symbolisaient les mauvaises passions. Les palmes, les fougères, les joncs, les roseaux qui enveloppaient les vertus étaient en effet d'un goût, d'un agencement à désespérer les gens du métier. Un ruban reliait les trois têtes entre elles, et sur les champs qu'il présentait dans chaque entre-deux des têtes, on voyait un W, un chamois et le mot « fekit ». «
Qui a donc sculpté cela ?» demanda Hortense.
« Eh bien, mon amoureux !» répondit la cousine bête. « Il y a là 10 mois de travail, aussi gagnais-je davantage à faire des dragonnes. Il m'a dit que Steinbock signifiait en allemand « animal des rochers » ou « chamois ». Il compte signer ainsi ses ouvrages.
« Ah, j'aurai ton châle !»«
Et pourquoi ? Puis-je acheter un pareil bijou ? Le commander ? C'est impossible. Donc, il m'est donné. Qui peut faire de pareils cadeaux ? Un amoureux !»
Hortense, par une dissimulation dont se serait effrayée Lisbeth Fischer, si elle s'en était aperçue, se garda bien d'exprimer toute son admiration, quoiqu'elle éprouvât ce saisissement que ressentent les gens dont l'âme est ouverte au beau, quand ils voient un chef-d'œuvre sans défaut, complet, inattendu.
« Ma foi, dit-elle, c'est bien gentil. »«
Oui, c'est gentil, reprit la vieille fille, mais j'aime mieux un cachemire orange. Eh bien, ma petite, mon amoureux passe son temps à travailler dans ce goût-là. Depuis son arrivée à Paris, il fait 3 ou 4 petites bêtises de ce genre, et voilà le fruit de 4 ans d'études et de travaux. Il s'est mis apprenti chez les fondeurs, les mouleurs, les bijoutiers. Bah, 1000 et 100 y ont passé. Monsieur me dit qu'en 2 mois maintenant, il deviendra célèbre et riche.
Mais tu le vois donc ?
Tiens, crois-tu que ce soit une fable ? Je t'ai dit la vérité en riant.
Et il t'aime ? Demanda vivement Hortense.
« Il m'adore, » répondit la cousine en prenant un air sérieux. « Vois-tu, ma petite, il n'a connu que des femmes pâles, fadasses, comme elles sont toutes dans le Nord. Une fille brune, svelte, jeune comme moi, ça lui a réchauffé le cœur. Mais, Motus, tu me l'as promis.
« Il en sera de celui-là comme des 5 autres, » dit d'un air railleur la jeune fille en regardant le cachet.
« 6, mademoiselle. J'en ai laissé un en Lorraine, qui, pour moi, décrocherait la lune, encore aujourd'hui. »«
Celui-là fait mieux, » répondit Hortense. « Il t'apporte le soleil. »«
Où cela peut-il se monnayer ? » demanda la cousine bête. « Il faut beaucoup de terre pour profiter du soleil. » Ces plaisanteries, dites coup sur coup et suivies de folies qu'on peut deviner, engendrer ces rires qui avaient redoublé les angoisses de la baronne en lui faisant comparer l'avenir de sa fille au présent où elle la voyait s'abandonnant à toute la gaieté de son âge.
« Mais pour t'offrir des bijoux qui veulent 6 mois de travail, il doit avoir de bien grandes obligations !» demanda Hortense, que ce bijou faisait réfléchir profondément.
« Ah, tu veux en savoir trop d'une seule fois !» répondit la cousine bête.
« Mais écoute, tiens, je vais te mettre dans un complot. Y serais-je avec ton amoureux ?
Ah, tu voudrais bien le voir. Mais tu comprends, une vieille fille comme votre bête qui a su garder pendant 5 ans un amoureux le cache bien. Ainsi, laisse-nous tranquille. Moi, vois-tu, je n'ai ni chat, ni serin, ni chien, ni perroquet. Il faut qu'une vieille bique comme moi ait quelque chose à aimer, à tracasser. Eh bien, je me donne un polonais.
A-t-il des moustaches ?
Longues comme cela, dit la bête en lui montrant une navette chargée de fil d'or. Elle emportait toujours son ouvrage en ville et travaillait en attendant le dîner.
Si tu me fais toujours des questions, tu ne sauras rien, reprit-elle. Tu n'as que 22 ans et tu es plus bavarde que moi qui en ai 42 et même 43.
J'écoute, je suis de bois, dit Hortense. Mon amoureux a fait un groupe en bronze de 10 pouces de hauteur, reprit la cousine bête. Ça représente Samson déchirant un lion, et il l'a enterré, rouillé,
de manière à faire croire maintenant qu'il est aussi vieux que Samson. Ce chef-d'œuvre est exposé chez un des marchands de bric-à-brac dont les boutiques sont sur la place du Carrousel, près de ma maison. Si ton père, qui connaît M. Popineau, le ministre du Commerce et de l'Agriculture, ou le comte de Rastignac, pouvait leur parler de ce groupe comme d'une belle œuvre ancienne qu'il aurait vue en passant, il paraît que ces grands personnages donnent dans cet article, au lieu de s'occuper de nos dragons, et que la fortune de mon amoureux serait faite, s'ils achetaient ou même venaient examiner ce méchant morceau de cuivre. Ce pauvre garçon prétend qu'on prendrait cette bêtise-là pour de l'antique, et qu'on la payerait bien cher. Pour l'or, si c'est l'un des ministres qui prend le groupe, il ira s'y présenter, prouver qu'il est l'auteur, et il sera porté en triomphe. Oh, il se croit sur le pinacle. Il a de l'orgueil, le jeune homme, autant que deux contes nouveaux. C'est renouvelé de Michel-Ange, mais pour un amoureux, il n'a pas perdu l'esprit, dit Hortense. Et combien en veut-il? 1500 francs. Le marchand ne doit pas donner le bronze à moins, car il lui faut une commission. Papa, dit Hortense, est commissionnaire du roi pour le moment. Il voit tous les jours les deux ministres à la chambre, et il fera ton affaire, je m'en charge. Vous deviendrez riche, madame la comtesse Steinbock. Non, mon homme est trop paresseux. Il reste des semaines entières à tracasser de la cire rouge et rien n'avance. Ah bah, il passe sa vie au Louvre, à la bibliothèque, à regarder des estampes et à les dessiner. C'est un flâneur. Et les deux cousines continuèrent à plaisanter. Hortense riait comme lorsqu'on s'efforce de rire, car elle était envahie par un amour que toutes les jeunes filles ont subi, l'amour de l'inconnu. L'amour à l'état vague et dont les pensées se concrètent autour d'une figure qui lui est jetée par hasard. Comme les floraisons de la gelée se prennent à des brins de paille suspendus par le vent à la marge d'une fenêtre. Depuis 10 mois, elle avait fait un être réel du fantastique amoureux de sa cousine par la raison qu'elle croyait, comme sa mère, au célibat perpétuel de sa cousine. Et depuis 8 jours, ce fantôme était devenu le comte Wenceslas Steinbock. Le rêve d'un acte de naissance, la vapeur se solidifiait en un jeune homme de 30 ans. Le cachet qu'elle tenait à la main, espèce d'annonciation où le génie éclatait comme une lumière, eut la puissance d'un talisman. Hortense se sentait si heureuse qu'elle se prit à douter que ce comte fût de l'histoire. Son sang fermentait. Elle riait comme une folle pour donner le change à sa cousine. « Mais il me semble que la porte du salon est ouverte, » dit la cousine bête. « Allons donc voir si M. Crevel est parti. »« Maman est bien triste depuis 2 jours. Le mariage dont il était question est sans doute rompu. »« Bah, ça peut se raccommoder. Il s'agit, je puis te dire cela, d'un conseiller à la cour royale. Aimerais-tu être madame la présidente ? Va, si cela dépend de M. Crevel, il me dira bien quelque chose, et je saurai demain s'il y a de l'espoir.
« Cousine, laisse-moi le cacher, » demanda Hortense. « Je ne le montrerai pas. La fête de maman est dans 1 mois. Je te le remettrai le matin. »«
Non, rends-le-moi. Il y a un écrin. »«
Mais je le ferai voir à papa, pour qu'il puisse parler au ministre en connaissance de cause, car les autorités ne doivent pas se compromettre, » dit-elle.
Eh bien, ne le montre pas à ta mère, voilà tout ce que je te demande, car si elle me connaissait un amoureux, elle se moquerait de moi.
Je te le promets.
Les deux cousines arrivèrent sur la porte du boudoir au moment où la baronne venait de s'évanouir, et le cri poussé par Hortense suffit à la ranimer. La bête alla chercher des selles. Quand elle revint, elle trouva la fille et la mère dans les bras l'une de l'autre, la mère apaisant les craintes de sa fille et lui disant
« Ce n'est rien, c'est une crise nerveuse. Voilà ton père, » ajouta-t-elle en reconnaissant la manière de sonner du baron. « Surtout ne lui parle pas de ceci. »
Adeline se leva pour aller au-devant de son mari dans l'intention de l'amener au jardin en attendant le dîner, de lui parler du mariage rompu, de le faire expliquer sur l'avenir et d'essayer de lui donner quelques avis. Le baron Hector Hulot se montra dans une tenue parlementaire et napoléonienne, car on distingue facilement les impériaux, gens attachés à l'Empire, à leur cambrure militaire, à leurs habits bleus à boutons d'or boutonnés jusqu'en haut, à leur cravate en taffetas noir, à la démarche pleine d'autorité qu'ils ont contractée dans l'habitude de commandement despotique exigée par les rapides circonstances où ils se sont trouvés. Chez le baron, rien, il faut en convenir, ne sentait le vieillard. Sa vue était encore si bonne qu'il lisait sans lunettes. Sa belle figure, oblongue, encadrée de favoris trop noirs, hélas, offrait une carnation animée par les marbrures qui signalent les tempéraments sanguins. Et son ventre, contenu par une ceinture, se maintenait, comme dit Brillat Savarin, au majestueux. Un grand air d'aristocratie et beaucoup d'affabilité servaient d'enveloppe aux libertins avec qui Crevel avait fait tant de parties fines. C'était bien là un des hommes dont les yeux s'animent à la vue d'une jolie femme et qui sourit à toutes les belles, même à celles qui passent et qu'ils ne reverront plus. « As-tu parlé, mon ami ?» dit Adeline en lui voyant un front soucieux. « Non, » répondit Hector. « Mais je suis assommé d'avoir entendu parler pendant 2 heures sans arriver à un vote. Ils font des combats de paroles où les discours sont comme des charges de cavalerie qui ne dissipent point l'ennemi. On a substitué la parole à l'action, ce qui réjouit peu les gens habitués à marcher, comme je le disais au maréchal en le quittant. Mais c'est bien assez de s'être ennuyé sur les bancs des ministres. Amusons-nous ici. Bonjour la chèvre, bonjour chevrette. » Et il prit sa fille par le cou, l'embrassa, la lutina, l'assit sur ses genoux et lui mit la tête sur son épaule pour sentir cette belle chevelure d'or sur son visage.
« Il est ennuyé, fatigué, » se dit Madame Hulot. « Je vais l'ennuyer encore. Attendons. »« Nous restes-tu ce soir ? » demanda-t-elle à haute voix. « Non, mes enfants, après le dîner, je vous quitte. » Et si ce n'était pas le jour de la chèvre, de mes enfants et de mon frère, vous ne m'auriez pas vu. »
La baronne prit le journal, regarda les théâtres et posa la feuille où elle avait lu Robert le Diable à la rubrique de l'opéra. Josepha, que l'opéra italien avait cédé depuis 6 mois à l'opéra français, chantait le rôle d'Alice. Cette pantomime n'échappa point au baron, qui regarda fixement sa femme. Adeline baissa les yeux, sortit dans le jardin, et il y suivit. « Voyons, qu'y a-t-il, Adeline ? » dit-il en la prenant par la taille, l'attirant à lui et la pressant. « Ne sais-tu pas que je t'aime plus que Jenny Cadine et que Josepha ? » répondit-elle avec hardiesse et en l'interrompant. « Et qui t'a dit cela ? » demanda le baron, qui, lâchant sa femme, recula de 2 pas.
On m'a écrit une lettre anonyme que j'ai brûlée et où on me disait, mon ami, que le mariage d'Hortense a manqué par suite de la gêne où nous sommes. Ta femme, mon cher Hector, n'aurait jamais dit une parole. Elle a su tes liaisons avec Jenny Cadine. S'est-elle jamais plainte? Mais la mère d'Hortense te doit la vérité. »
Hulot, après un moment de silence terrible pour sa femme, dont les battements de cœur s'entendaient, se décroisa les bras, la saisit, la pressa sur son cœur, l'embrassa sur le front et lui dit avec cette force exaltée que prête l'enthousiasme
« Adeline, tu es un ange et je suis un misérable. » « Non, non, » répondit la baronne en lui mettant brusquement sa main sur les lèvres pour l'empêcher de dire du mal de lui-même. « Oui, je n'ai pas un sou dans ce moment à donner à Hortense et je suis bien malheureux. Mais puisque tu m'ouvres ainsi ton cœur, j'y puis verser des chagrins qui m'étouffaient. Si ton oncle Fischer est dans l'embarras, c'est moi qui l'y ai mis. Il m'a souscrit pour 25 000 francs de lettres de change. Et tout cela pour une femme qui me trompe, qui se moque de moi quand je ne suis pas là, qui m'appelle un vieux châtain. Oh, c'est affreux qu'un vice coûte plus cher à satisfaire qu'une famille à nourrir. Et c'est irrésistible! Je te promettrai à l'instant de ne jamais retourner chez cette abominable Israélite. Si elle m'écrit de ligne, j'irai, comme on allait au feu sous l'empereur. Ne te tourmente pas, Hector, dit la pauvre femme au désespoir et oubliant sa fille à la vue des larmes qui roulaient dans les yeux de son mari. Tiens, j'ai mes diamants, sauve avant tout mon oncle. Tes diamants valent à peine 20 000 francs aujourd'hui. Cela ne suffirait pas au père Fischer. Ainsi, garde-les pour Hortense. Je verrai demain le maréchal. Pauvre ami, s'écria la baronne en prenant les mains de son Hector et en les lui baisant. Ce fut toute la mercuriale. Adeline offrait ses diamants, le père les donnait à Hortense. Elle regarda cet effort comme sublime, et elle fut sans force. Il est le maître, il peut tout prendre ici, il me laisse mes diamants. C'est un dieu. Telle fut la pensée de cette femme, qui certes avait plus obtenu par sa douceur qu'une autre par quelque colère jalouse. Le moraliste ne saurait nier que, généralement, les gens bien élevés et très vicieux ne soient beaucoup plus aimables que les gens vertueux. Ayant des crimes à racheter, ils sollicitent par provision l'indulgence, en se montrant faciles avec les défauts de leurs juges, et ils passent pour être excellents. Quoiqu'il y ait des gens charmants parmi les gens vertueux, la vertu se croit assez belle par elle-même pour se dispenser de faire des frais. Puis les gens réellement vertueux, car il faut retrancher les hypocrites, ont presque tous de légers soupçons sur leur situation. Ils se croient dupés au grand marché de la vie. Et ils ont des paroles aigrelettes, à la façon des gens qui se prétendent méconnus. Ainsi le baron, qui se reprochait la ruine de sa famille, déploya toutes les ressources de son esprit et de ses grâces de séducteur pour sa femme, pour ses enfants et sa cousine bête. En voyant venir son fils et Célestine Crevel, qui nourrissait un petit Hulot, il fut charmant pour sa belle-fille. Il l'accabla de compliments, nourriture à laquelle la vanité de Célestine n'était pas accoutumée, car jamais fille d'argent ne fut si vulgaire ni si parfaitement insignifiante. Le grand-père prit le marmot, il le baisa, le trouva délicieux et ravissant. Il lui parla le parler des nourrices, prophétisa que ce poupard deviendrait plus grand que lui, glissa des flatteries à l'adresse de son fils Hulot et rendit l'enfant à la grosse Normande chargée de le tenir. Aussi Célestine échangea-t-elle avec la baronne un regard qui voulait dire « Quel homme charmant !» Naturellement, elle défendait son beau-père contre les attaques de son propre père. Après s'être montré beau-père agréable et grand-père gâteau, le baron amena son fils dans le jardin pour lui présenter des observations pleines de sens sur l'attitude à prendre à la chambre sur une circonstance délicate surgie le matin. Il pénétra le jeune avocat d'admiration par la profondeur de ses vues, il l'attendrit par son ton amical et surtout par l'espèce de déférence avec laquelle il paraissait désormais vouloir le mettre à son niveau. Monsieur Hulot fils était bien le jeune homme tel que l'a fabriqué la Révolution de 1830. L'esprit infatué de politique, respectueux envers ses espérances, les contenant sous une fausse gravité, très envieux des réputations faites, lâchant des phrases au lieu de ses mots incisifs, les diamants de la conversation française, mais plein de tenue et prenant la morgue pour la dignité. Ces gens sont des cercueils ambulants qui contiennent un français d'autrefois. Le français s'agite par moments et donne des coups contre son enveloppe anglaise, mais l'ambition le retient, et il consent à y étouffer. Ce cercueil est toujours vêtu de drap noir. « Ah, voici mon frère !» dit le baron Hulot en allant recevoir le comte à la porte du salon. Après avoir embrassé le successeur probable du feu maréchal Montcornet, il l'amena en lui prenant le bras avec des démonstrations d'affection et de respect. Ce pair de France, dispensé d'aller aux séances à cause de sa surdité, montrait une belle tête froidie par les années, à cheveux gris, encore assez abondants pour être comme collés par la pression du chapeau. Petit, trapu, devenu sec, il portait sa verte vieillesse d'un air guilleré, et comme il conservait une excessive activité condamnée au repos, il partageait son temps entre la lecture et la promenade.
Ses mœurs douces se voyaient sur sa figure blanche, dans son maintien, dans son honnête discours plein de choses sensées. Il ne parlait jamais guerre ni campagne. Il savait être trop grand pour avoir besoin de faire de la grandeur. Dans un salon, il bornait son rôle à une observation continuelle des désirs des femmes. « Vous êtes tous gais, » dit-il en voyant l'admiration que le baron répandait dans cette petite réunion de famille. « Hortense n'est cependant pas mariée, » ajouta-t-il en reconnaissant sur le visage de sa belle-sœur des traces de mélancolie.
« Ça viendra toujours assez tôt, » lui cria dans l'oreille la bête d'une voix formidable.
« Vous voilà bien, mauvaise graine qui n'a pas voulu fleurir, » répondit-il en riant. Le héros de Pforzheim aimait assez la cousine bête, car il se trouvait entre eux des ressemblances. Sans éducation, sorti du peuple, son courage avait été l'unique artisan de sa fortune militaire, et son bon sens lui tenait lieu d'esprit. Plein d'honneur, les mains pures, il finissait radieusement sa belle vie au milieu de cette famille où se trouvaient toutes ses affections sans soupçonner les égarements encore secrets de son frère. Nul plus que lui ne jouissait du beau spectacle de cette réunion où jamais il ne s'élevait le moindre sujet de discorde, où frères et sœurs s'aimaient également, car Célestine avait été considérée aussitôt comme de la famille. Aussi le brave petit comte Hulot demandait-il, de temps en temps, pourquoi le père Crevel ne venait pas. « Mon père est à la campagne !» lui criait Célestine. Cette fois, on lui dit que l'ancien parfumeur voyageait. Cette union si vraie de sa famille fit penser à Madame Hulot « Voilà le plus sûr des bonheurs, et celui-là, qui pourrait nous l'ôter ?» En voyant sa favorite, Adeline, l'objet des attentions du baron, le général en plaisanta si bien que le baron, craignant le ridicule, reporta sa galanterie sur sa belle-fille, qui dans ses dîners de famille était toujours l'objet de ses flatteries et de ses soins, car il espérait par elle ramener le père Crevel et lui faire abjurer tout ressentiment. Quiconque eût vu cet intérieur de famille aurait eu de la peine à croire que le père était aux abois, la mère au désespoir, le fils au dernier degré de l'inquiétude sur l'avenir de son père, et la fille occupée à voler un amoureux à sa cousine. À cette heure, le baron, voyant son frère, son fils, la baronne et Hortense occupés tous à faire le whist, partit pour aller applaudir sa maîtresse à l'opéra en emmenant la cousine bête qui demeurait rue du Doyenné et qui prétextait de la solitude de ce quartier désert pour toujours s'en aller après le dîner. Les Parisiens avoueront tous que la prudence de la vieille fille était rationnelle.